Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work édition Clubhouse. Toutes les semaines, je vous propose le replay du débat qu'il y a eu lieu sur Clubhouse, sur la room Happy Work. Et cette semaine, le débat était consacré à comment gérer mieux nos émotions au travail. Vous allez voir, le débat a été extrêmement riche avec des spécialistes et avec des gens qui sont venus poser des questions, des gens comme vous. Si vous le souhaitez, vous pouvez assister à chacun des débats chaque semaine, le vendredi à 18h sur Clubhouse, le nom de la room Happy Work. Je vous souhaite une excellente écoute. Alors, les amis, grande question que les émotions, et effectivement, Boydin a d'entrée posé une très très bonne question, c'est quoi les émotions? Mais avant de répondre à ça, en fait, j'ai beaucoup écrit sur les émotions et je vais vous proposer une méthode pour gérer ces émotions dans un premier temps, et après, ben, on va discuter, on va partir de cette base, de cette méthode qui vaut ce qu'elle vaut, et ensuite, ben, on débattra, on va parler des émotions, je vais vous parler, il y a des théories aussi d'émotions, bien entendu, ça ne sera pas un monologue, sinon ben, ça ne sert à rien de faire monter des gens sur le stage. Bienvenue Benoît d'ailleurs sur le stage, j'espère que tu vas bien.
Bienvenue.
Salut Benoît.
Alors, en fait, les quatre étapes que je vous propose, et ça va prendre 2 minutes, c'est super simple, quelle que soit l'émotion. Alors, bien entendu, quand on parle d'émotion, je ne sais pas si vous avez remarqué, on parle souvent d'émotions négatives. Bien sûr, il y a les émotions positives, mais je ne sais pas si vous avez remarqué, on a quand même vachement plus tendance à ne pas lutter contre les émotions positives comme la joie ou ce genre de choses, alors que ce sont vraiment les émotions négatives qui nous posent un vrai problème. Donc en fait, les quatre étapes, la première, c'est d'accepter l'émotion. Et on l'a vu pendant la pandémie, il y a des gens qui se sont dit « Non, mais je ne peux pas avoir d'émotion. Je suis un robot. Je veux être un robot, donc je refoule mes émotions. » Résultat, je vais vous livrer un chiffre qui est effrayant. Plus de 45% des salariés français sont en détresse psychologique. Je ne sais pas si vous voyez le mot « détresse psychologique ». Alors, je ne dis pas que c'est parce qu'ils refusent leurs émotions, mais en tout cas, accepter l'émotion, c'est déjà comment, c'est le début de la solution. La deuxième, c'est d'analyser l'importance réelle de la cause de mon émotion. Le principe d'une émotion, souvent, quand on l'a, si on ne l'accepte pas et si on refuse de la traiter, petit à petit, elle va prendre toute la place. Alors qu'au début, ça peut être une petite émotion, j'imagine que ça vous est déjà arrivé d'avoir une contrariété. Quelqu'un vous dit quelque chose qui vous vexe et vous ne réagissez pas. Vous ne dites rien, vous la refoulez et vous allez y repenser, puis y repenser. Et puis le soir, au moment de vous endormir, vous allez en faire un truc énorme, vous allez mal dormir le lendemain. Et bref, ça devient un truc absolument de dingue. Donc, il faut analyser l'importance. Et je vais finir rapidement sur les deux autres étapes. La troisième étape, relativiser. C'est toujours ce que je dis. Mis à part la mort, il n'y a pas grand-chose de définitif dans notre vie. Et donc, il faut se poser et écrire. Parfois, écrire son émotion, la raison de son émotion, c'est un moyen déjà de relativiser, de prendre de la distance. Et enfin, le dernier point, c'est de trouver une solution constructive. Et ça, on ne peut pas le faire quand on est plein dans l'émotion. Il y a un proverbe arabe que j'aime beaucoup, c'est qui dit ça. Ce n'est pas dans la tempête qu'on peut lever les voiles. Ce qui veut dire que quand on est en plein dans une émotion forte, c'est impossible de la gérer. Salut Shazam, j'espère que tu vas bien. J'ai envie...
Merci.
Mais je t'en prie. J'ai envie de commencer par celui qui m'a l'air d'être le plus... pas grande gueule, j'aime pas ce mot-là, mais le plus sujet à de l'émotion et à s'exprimer de façon émotive, Laurent. Est-ce que je me trompe quand je dis ça? Parce que j'ai l'impression que toi,
t'es... Complètement.
Et donc, toi, alors, les quatre étapes que je viens de donner, est-ce que ça t'évoque quelque chose?
Alors, d'abord, je n'ai absolument... Enfin, tu te trompes complètement. Vraiment. Je pense, le plus calme du stage avec Inès.
Ah, excuse-moi, je croyais que avant qu'on commence l'enregistrement, je croyais que tu disais justement que tu étais très sujet aux émotions. J'ai mal compris.
Alors,
autant pour moi,
non,
Laurent.
Pas du tout. Non, pas du tout. Alors, je ne suis pas du tout sujet aux émotions parce que je sais très bien gérer mes émotions, et ça depuis une bonne dizaine d'années. Donc
Alors, comment tu t'y prends, concrètement?
Alors, tu as très bien défini les choses. Franchement, tu as très bien défini les choses. Jamais, quand j'ai une émotion, quand j'ai une émotion et que je la sens arriver, la première chose que je fais, c'est que je la tais tout de suite. C'est-à-dire, je la garde en moi. Ça ne veut pas dire que je la tâche et que je la renie. Pas du tout.
Ouais, tu la refoules pas. C'est-à-dire, tu fais une pause et tu te dis, OK.
Je fais une pause.
Qu'est-ce qui se passe dans ma tête?
Et je la garde pour plus tard. Parce que des fois, on peut pas, on a une émotion, puis on est en pleine réunion, on peut absolument pas, commencer à hurler dans une réunion. D'abord, ce serait contre-productif, ça servira à rien. Et même de le faire gentiment, ça ne servira à rien. Mais en plus, j'ai tendance à ne jamais faire les choses quand il y a du monde. J'essaye de faire les choses toujours mano à mano avec la personne avec qui j'ai le différent et qui m'a créé l'émotion. Donc je pense que ça ne regarde pas les autres. Et puis en plus, des fois, je me dis aussi que des fois, les gens ne le font pas forcément exprès. Malheureusement, c'est comme ça. Donc déjà, c'est la première chose que je fais, c'est que je la gère sur le moment, c'est-à-dire que je me calme. Et alors, j'ai un truc pour ça. Mais ça, c'est un truc de directeur artistique, mais ça me sert à plein de choses. Ça ne me sert pas simplement à gérer mes émotions, mais ça me sert aussi à me concentrer. Je dessine.
Ouais, c'est vraiment un truc de DA, parce que moi, si je dessine, je te garantis, ça va plus m'énerver qu'autre chose, tellement je suis mauvais. Mais tu dessines quoi? Ton émotion ou rien
non,
à voir avec?
Je dessine des visages, des plantes, des poissons, enfin peu importe, des animaux, enfin peu importe. Je dessine toujours, parce que je sais que ça me permet de restabiliser ce que je suis, par exemple, typiquement, et ensuite de me calmer et aussi de me reconcentrer parce qu'on est quand même là pour une réunion, en l'occurrence. Voilà, alors ça, c'est dans le cas d'une réunion. Si on est dans le cas d'une mano-mano, je ne vais pas le dire tout de suite, généralement. Même en mano-mano, je ne le dirai pas tout de suite parce que je sais que ça ne sert à rien. Je vais le faire sous le coup de la colère, je vais le faire sous le coup de l'énervement et de toute manière... d'abord, premièrement, peut-être la personne a raison. Ça, c'est possible. Il faut admettre que la personne en face peut avoir raison, même si elle le dit mal, même si elle le dit en vous énervant. Une vérité n'est pas bonne à prendre dans le visage. Et des fois, il faut un petit peu de temps pour redescendre. Donc, je ne suis pas dans un débat et je veux avoir une discussion. Donc, pour avoir une discussion, mais ça, je l'ai appris avec Alexis. Alexis l'a appris aussi. Ça, c'est quelque chose qu'on a appris en franc-maçonnerie. On a le droit de parler une fois, et quand on parle, il faut parler pour dire quelque chose d'intéressant. Donc, ça ne sert à rien de répondre tout de suite et de perdre son droit de parole. Donc, j'attends généralement, je redescends. Quand je redescends et que... alors, bien évidemment, on ne peut pas toujours le faire, mais depuis 10 ans, on peut dire que j'ai réussi très très bien. Et donc, je redescends, et puis quand je suis calmé, que j'ai compris réellement ce qu'a voulu me dire la personne, c'est-à-dire que j'ai été chercher derrière la méchanceté, derrière le pic, derrière ce qu'elle avait vraiment envie de me dire, parce que c'est ça qui est important, je vais lui dire, voilà, ou t'as raison ou t'as tort, mais la manière dont tu me l'as dit, je n'aime pas.
Mais c'est marrant, Laurent, parce que ce que tu fais avec le dessin, c'est un conseil que je donne. Alors, si des gens savent dessiner, ça peut être un moyen, mais effectivement, moi, ça m'est arrivé un certain nombre de fois quand j'étais en entreprise, quand on m'envoie un mail qui m'énerve sévère, bien entendu, de ne pas répondre sur le coup de la colère, mais par contre, d'écrire le mail que j'aurais écrit sous le coup de la colère et de ne pas l'envoyer, et par contre, de laisser au calme et de le relire le lendemain. Et en fait, c'est un truc de fou. Si tu as réagi comme ça, Laurent, c'est que toi aussi, tu as déjà fait cette technique. C'est fou. Comme quand tu le relis le lendemain, tu dis « Ah ouais, heureusement que je ne l'ai pas envoyé. » Parce que sur le coup de la colère, nos émotions, elles nous font dire un peu...
n'importe quoi.
Ouais, en tout cas, ça grossit le trait et finalement, c'est pas constructif. C'est juste.
Les aveugles.
Ah, mais complètement. Les émotions, ça aveugle. Mais c'est exactement ça, Shazam. Les émotions aveuglent. Alors, je fais un tout petit refresh de la room, les amis, parce qu'il y a pas mal de monde qui est arrivé. On parle de la gestion des émotions au travail. Donc, si vous avez des questions ou si vous avez des petits tips comme Laurent vient de faire, n'hésitez surtout pas. Inès, toi, tu les gères comment tes émotions face à tes. Parce que je rappelle, donc, Inès travaille dans le bâtiment. Donc un milieu, sans vouloir donner dans l'archétype, un petit peu machiste et parfois un petit peu émotionnel. Comment tu gères ça, toi?
Alors, c'est totalement machiste, je te corrige. alors, ce qui va être assez paradoxal, un, je suis une vraie éponge émotionnelle. Deux, je reste toujours calme sur chantier. Et trois, il m'arrive de m'énerver. Mais c'est-à-dire que c'est vraiment quand on pousse le bouchon très très loin et je n'arrive pas à me maîtriser. Je vous donne un cas de situation. C'est que moi, il m'arrive très souvent, peu importe mes interlocuteurs, je peux très bien m'entendre avec eux, mais je ne vais pas, si vous voulez, les changer ou changer leur comportement ou lorsqu'ils débarquent, lorsqu'ils sont nouveaux, lorsqu'ils ne savent pas comment je suis ou ils ne connaissent pas la manière dont il faut communiquer avec moi, d'avoir en face de moi quelqu'un qui va me parler au client. Littéralement, ça va être assez violent, mais pas dans les mots, mais c'est plutôt dans l'expression. Donc moi, ce que je fais sur le coup, c'est que je regarde la personne et j'ai toujours un tic avec mes mains. C'est que je compte. Comment je suis en train de faire le geste, mais c'est que je ne montre pas, par exemple, ce que je fais avec mes mains, mais par exemple, je commence à tapoter ma jambe et je commence à compter. Et du coup, ça me permet justement, en comptant et en écoutant, de ne pas pouvoir m'énerver.
Et tu arrives à faire les deux en même temps, parce que généralement, on dit que écouter pendant qu'on se raconte quelque chose, c'est pas possible. D'accord.
J'arrive à compter en même temps. C'est que on peut me parler, je peux faire quelque chose et je peux compter en même temps quelque chose si c'est gestuel. Si on me touche, si moi je fais un geste et que je commence à compter, c'est un réflexe que j'ai eu depuis que j'ai commencé à travailler sur chantier au final. Et du coup, j'arrive plus ou moins à me dire, bon, là je commence à 10 et je descends. Et dans ma tête, c'est je descends. Donc j'arrive à avoir mon compte, je suis la personne qui est en train de faire tout son charabia et. Au final, quand je réponds de manière très calme. Je réponds une fois, deux fois. Je préviens soit on communique au même ton que moi, soit je cesse la discussion. Et généralement, quand ça ne marche pas, et c'est un peu le temps de l'apprentissage, donc pour avoir un peu un même seuil de communication, je pars. Ou j'arrête la réunion, ou ce n'est plus possible de le faire avec moi, parce qu'au final, moi je pars avec un gros désavantage, c'est que moi je ne peux pas travailler au milieu de gens qui gueulent autour de moi, ça me fait chier, clairement, et puis c'est contre-productif. Et du coup, j'ai toujours une posture plus ou moins calme et ferme, sauf que intérieurement, je bouillonne. Mais c'est incroyable.
Mais ce qui est compréhensible, mais ce que tu racontes, ça me fait penser à un truc que j'ai théorisé qui s'appelle la parabole du chihuahua et du pitbull. Je ne sais pas si tu vois un chihuahua, comment c'est fait. Tu sais, c'est les chiens qui gueulent tout le temps, dès que tu t'approches. Ce que tu décris, ça me fait penser à ça, alors qu'un pitbull, ça n'aboie jamais. Et en fait, ce que tu fais, c'est intuitivement, parce qu'un chihuahua, si tu t'approches de lui, il va aboyer. Là, tu as deux possibilités, soit tu fais un demi-tour, et le chihuahua, il se dit « putain, je suis super balèze, j'ai fait peur à la grande personne », soit tu aboies aussi, bah lui, il va aboyer aussi, soit tu te calmes, tu ne dis rien. Et en fait, au bout de 40 secondes, maximum une minute, le chihuahua s'arrête d'aboyer. Et soit c'est lui qui fait demi-tour, soit il te regarde parce qu'il ne comprend pas. Et en fait, j'ai l'impression que tu es entouré de chihuahua, en fait, sur tes chantiers.
Ah mais franchement, un jour je me dis, il faut vraiment que je fasse un film sur comment ça se passe.
Des chihuahuas avec des corps de pitbull, hein, quand même. Hein.
Ah ouais, non mais c'est
ça. Oui, c'est vrai, sur les chantiers, ils peuvent avoir des corps de pitbull, certes. C'est pas faux.
Oui. Après, ça va être une posture très. Par exemple, on m'a déjà sorti. Et ça, je m'en souviens toujours, en gueulant, oui, j'ai 30 ans de bouteille, c'est pas toi, une petite nanette qui va m'apprendre mon taf. Enfin, on m'a sorti des choses plus ou moins violentes, parce qu'on me décrédibilise par rapport à mon travail. Mais au final, c'est leur donner raison, c'est répondre.
Ça, je suis d'accord, Inès, mais en fin de journée, émotionnellement, tu dois être rincé quand même.
Honnêtement, ça m'épuise.
Mais alors, comment tu fais justement quand tu rentres chez toi pour te ressourcer? Parce que si tu te passes une journée avec une ou deux personnes comme ça, c'est quoi ta méthode le soir? Alors, me dis pas, je pleure dans mon canapé parce que ça serait horrible. J'imagine que tu as développé des moyens pour t'échapper de ça, non?
Quand j'ai le temps, je fais beaucoup de sport. J'arrive à tout extérioriser ou plus ou moins une partie. Parce que bon, quitte à avoir des interlocuteurs violents, autant faire un sport qui me demande beaucoup d'énergie, donc de la boxe. Mais sinon, en fait, je faisais du yoga, qui est complètement à l'encontre, qui me permet justement de me recentrer. Ou sinon, je suis plutôt du style, là en y repensant, quand j'arrive pas à avoir une activité qui permet d'extérioriser ça, juste à m'occuper. Je veux avoir l'esprit occupé, je ne veux pas y penser. Parce qu'au final, typiquement, je me retiens beaucoup quand je suis sur le chantier parce que il n'y a aucune émotion sur mon visage, je ne montre rien, tout va bien. Sauf que moi, si tu veux, quand je m'énerve, j'ai envie de pleurer. Quand je suis contente, j'ai envie de pleurer.
Non, mais c'est clair, mais ce genre de situation.
Je me retiens.
Ce genre de situation, c'est vraiment épuisant parce que, de un, tu dois gérer les émotions des autres qui sont des émotions intenses, tu dois gérer les tiennes et donc, effectivement. Quand on rentre chez soi, plutôt que de s'enfermer et rester sur son canapé, le côté se défouler et faire du sport, c'est effectivement un très bon moyen pour gérer les émotions négatives qu'on a reçues dans la journée. Donc ça, c'est encore une autre chose, c'est comment on gère les émotions des autres. Alors, on va souhaiter la bienvenue sur le stage à Jean-François, Sarah et Emra. On va donner la parole aux personnes les uns après les autres, alors sauf ceux qui ont déjà parlé. Inès, si tu veux réintervenir, si jamais il y a quelque chose que tu veux rajouter, tu es bien entendu la bienvenue. Mon Benoît, toi qui es un fidèle de Happy Hour, qu'est-ce que tu as à nous dire sur le sujet ?
Gérer les émotions. Est-ce qu'on gère vraiment ces émotions? On limite, je pense, avec différentes techniques, des moments où on arrive peut-être à les gérer, puis des fois, effectivement, il peut y avoir des trop-pleins. Ben, c'est des marqueurs soit de fatigue, soit de surprise et de non-gestion de l'événementiel émotionnel que l'on reçoit. Est-ce que c'est aussi bon de tout le temps gérer, je sais pas trop. En tout cas, moi, je reviens encore une fois à mon parallèle. J'ai appris à gérer l'émotionnel dans le sport, dans la compétition, parce que ça peut être un allié et ça peut être un ennemi. Trop d'émotions peuvent faire tout simplement déchanter de la réalité et perdre. Moi, j'ai fait des sports de collectif et j'ai aussi fait des sports à sensation, notamment du surf. Puisque j'ai été il y a très longtemps en charge de la sécurité des gens sur des plages qui étaient réputées les plus dangereuses de France, à ce bord. Là, le niveau émotionnel, lorsque tu travailles, il peut être vraiment à des puissances très très intenses, que ça soit ta propre sécurité quand tu vas chercher quelqu'un au large, que ça soit tout simplement l'émotion que tu reçois quand tu portes secours à quelqu'un, parce que là on travaille sur de l'humain, on travaille pas sur du papier.
Mais concrètement, comment tu fais alors, Benoît, quand tu es face, par exemple, à quelqu'un que tu dois sauver?
En fait, je pense qu'on est un peu tous pareils, des gens qui ont connu ce genre d'activité. Tu es en mode robotique. Au moment où tu es dans l'action, ça doit être la répétition, la répétition, la répétition de l'entraînement qui fait que tes gestes sont robotiques pour être le plus précis possible.
Mais c'est après donc que tu as un contre-coup d'émotion quand après, tu analyses.
Tout à fait.
Et alors comment tu fais à ce moment-là?
Ben moi, à ce moment-là, j'avais une technique, c'était d'aller surfer, de me vider la tête dans l'eau. Souvent, c'était le lendemain, j'allais me vider la tête dans l'eau, même si des fois, je restais juste sur la planche à regarder le soleil, tu vois, et à regarder un coucher de soleil. Je me remplissais de quelque chose qui me détendait au maximum, vraiment qui me détendait, qui n'enlevait pas le stress que j'avais pu avoir d'un point de vue souvenir, mais qui me permettait d'éliminer en fait toutes les toxines de stress que peut engendrer une très forte émotion. Alors ça marche pas. Pour certains, ils avaient peut-être un peu de sophro, d'autres, ben, malheureusement, ça pouvait être faire la fête. Et ça, c'est un très mauvais ennemi. Enfin, c'est un ami et un très bon ennemi quelque part. Beaucoup de gens, malgré tout, dans l'émotionnel, et on le trouve, et tu l'as dit toi-même, dans les métiers de commerciaux, des gens comme ça, tu les vois, c'est des gens qui peuvent être expansifs aussi dans l'après, dans la fête et compagnie. Et en fait, quelque part, c'est une très mauvaise gestion parce que ben, à une problématique émotionnelle qui est peut-être gérée sur l'instant, il le gère par une expansion derrière et souvent qui est plutôt soi-disant salvatrice, mais qui entraîne d'autres problèmes. Et je me dis, le stress que j'ai vécu dans le négatif, je le positive autrement. Tu vois, et ça me permet d'avoir un équilibre mental par rapport à ça.
Ça, j'entends, c'est-à-dire Benoît. Que, t'es un peu
ça,
comme
je
Inès.
Fais pour me remplir, moi.
T'es un peu comme Inès, tu gères. Mais c'est un exutoire. Je pense quand même que dans l'émotion, alors c'est vachement important de gérer avec un exutoire quand on a eu une émotion intense. Par contre, je pense pas qu'on puisse faire l'économie de l'introspection, de comprendre qu'est-ce qui a généré cette émotion négative.
Ah, bien sûr.
Et non, surtout de se poser la question, comment la prochaine fois je fais pour que cette émotion négative soit moins forte. Et cette introspection, elle est parfois très compliquée à faire.
Tout à fait. Par exemple, dans le domaine des pompiers, puisque je travaille avec eux, hein, des pompiers, des secouristes, il y a un truc qui est une hantise totale. C'est une hantise totale. C'est arriver, porter secours et s'apercevoir que c'est quelqu'un de sa famille. Et là, l'émotion, elle est plus contrôlable.
Là, tu m'étonnes.
C'est pas possible. C'est pas possible.
Bien donc, évidemment.
Moi, je l'ai fait sur ma mère et j'ai étonné les personnes de mon entourage ce jour-là. Je l'ai même amené à l'hôpital et tout ça elle était tombée sur la tête. Et sur le moment, je suis resté de mort, mais franchement, je me demande comment. Et en fait, ça a été 4 jours après, j'ai pas pu dormir pendant 2 jours.
Oui, non, mais c'est ça.
Je pouvais pas.
En fait, Benoît, tu as très bien résumé avec le côté, il y a certaines émotions, elles sont générées par notre métier, on crée des automatismes qui vont nous permettre de gérer sur le moment, mais pour autant, il faut gérer après le mécanisme qui nous a amené à l'émotion. Alors, on va accueillir Sarah et Emra, on va vous donner la parole juste après. Mais sur l'introspection, je sais pas, je connais un petit peu Shazam pour les personnes qui écouteront le replay de cette room. J'ai le sentiment, Shazam, que toi, l'introspection, c'est un territoire que tu connais. Est-ce que je me trompe ?
Je suis très étonné. Bonsoir à tous. Merci Gaël. Je suis très étonné de cette réflexion. Qu'est-ce qui te laisse inspirer ta réflexion ?
Non, mais si je me trompe, dis-le. Comment est-ce que tu gères tes émotions, toi ?
Alors, moi, je vais être le vilain petit canard, en fait, dans ta room, parce que, encore une fois, je ne l'ai jamais caché et je vous l'ai toujours dit, je suis touché par le syndrome d'Asperger et je suis d'une catégorie de haut potentiel qui n'est plus catégorisable par le fait que je n'ai pas une pensée en arborescence, mais j'ai une pensée en labyrinthe arborescente. Qui en plus de ça me permet de pouvoir donner la traduction de ce qu'un Asperger ou un HP n'est pas capable de traduire à quelqu'un de normalement pensant. Je n'aime pas le mot, mais c'est tel qu'il est utilisé. Moi, personnellement, je vais te donner mon ressenti. Jusqu'à il y a très peu de temps, mes émotions... comme Inès et Inès, il faudra qu'on parle. Moi, je suis un hyper empathique, ce qui signifie que quand je m'approche de quelqu'un ou d'une personne ou d'un inconnu, je peux te dire à minima déjà son état d'esprit et ça m'envahit. Ça m'envahit et en même temps, c'est une toxique, une toxine, pardon. Et aujourd'hui, j'ai réussi à combattre cette hyper-empathie en répétant la seule et unique chose, je m'aime. Alors, ça va peut-être vous faire rire, mais qu'est-ce qui est le plus important pour pouvoir se sauver que d'avoir une seule et même définition qui va te permettre de te calmer et de te recentrer sur toi-même? C'est de penser à toi en te disant des choses positives.
Mais complètement. Tu sais, Shazam, c'est quand les émotions négatives, bien souvent, vont tirer les personnes vers le bas parce que ça va toucher à leur amour propre, à leur confiance en eux. Et effectivement, les émotions négatives, mais on l'a très bien entendu dans ce que disait Inès sur ces chantiers. S'il y a des gens qui n'arrêtent pas de lui dire « Non, mais t'es qui, petite bonne femme, pour nous donner des ordres à nous, les mecs, sur les chantiers ?» Mieux vaut être solide sur son amour propre et sa confiance en soi pour pas se faire détruire petit à petit par ce genre de réflexion. Donc, ça fait complètement sens ce que tu dis, Shazam, sur le côté « Se rappeler de temps en temps ». Je suis pas complètement nul, je suis pas complètement mauvais, et je m'aime, c'est hyper important, bien sûr.
Et la première pensée qu'il faut avoir le matin quand on se réveille, c'est je me kiffe, je m'aime. J'exagère, hein, je grossis le trait de façon très volontaire, Gaël, parce que souvent les gens disent que c'est une forme de prétention, mais ça sont des gens qui n'ont peut-être pas vécu comme ce qu'a vécu Inès. Et si tu me permets une dernière chose, Inès est une jeune femme dans un milieu d'hommes. vous me connaissez maintenant physiquement, vous savez à quoi je ressemble. Vous savez que je suis un grand jeune homme, très filiforme. On peut me dire bonjour madame, bonjour monsieur. Enfin, ça peut être un petit peu... voilà, c'est mon côté androgyne qui peut perturber les gens. Et ben, pour acter dans le sens d'Inès, moi j'ai travaillé dans une société, comme Inès, une société patriarcale, d'hommes, une paire de couilles sur la table, hein, excuse-moi, mais il n'y a pas d'autre terme. Et je me suis retrouvé un jour face à un commercial qui venait me vendre ses produits, donc moi j'étais chef de produit, en me disant... c'est le plus beau, c'est le meilleur, vous signez en bas de la page, on vous les livre dans une semaine. Bonjour, qui êtes-vous? Présentez-vous, excusez-moi. Et là, le mec m'a regardé, il m'a fait, vous devriez peut-être aller faire votre manucure parce que, bon, vous n'avez pas très bien compris les arguments et les avantages de mon produit. Et là, je me suis levé, je l'ai regardé, je lui ai fait, bah écoutez, vous savez ce que vous allez en faire de votre produit, vous le prenez, vous le taillez en pointe et vous le mettez là où je pense. Et puis, vous allez envoyer votre directeur commercial, parce que c'est moi qui signe le bon de commande, et étant donné que vous ne me jugez que sur mon aspect extérieur et non pas sur mes capacités neuronales, bah écoutez, je pense que nous n'avons plus rien à échanger, donc sur ces entrefaites, je ne vous raccompagne pas à la sortie, vous connaissez le chemin, et surtout, on ne sort rappelle pas, auquel cas...
Mais ça, c'est une vraie méthode d'être dans la réponse immédiate, mais tu peux avoir cette réponse immédiate quand, j'imagine, tu as déjà été confronté à ce genre de comportement et donc tu as...
Non, parce que justement, c'est ça, c'est justement ma psyché et ma mécanique neuronale qui est capable d'être au tac au tac et d'être toujours en alerte. Parce que, comme Inès, on a toujours aussi besoin de se protéger. Et donc, moi, mon cerveau est toujours en mode veille, mais en mode surveillance à 360 degrés. Parce que je n'autorise personne, et je n'autorise qu'une seule personne à pouvoir me faire des remarques, et vous la connaissez tous, Mama, mais les autres, je n'accepte ni jugement, ni dégradation de valeur sans que ce soit factuel. Démontre-moi que je suis mauvais, nul, que j'ai fait une erreur, factuellement, je l'accepte.
Mais je reviens sur ce que tu disais, Shazam. Pour arriver à cette assurance, il faut vraiment avoir confiance en qui on est et de ses forces. Et je rajouterais sur ce que tu disais sur l'exercice de se dire tous les jours qu'on s'aime, il y a un exercice qui est tout bête à faire, qui est vraiment très simple, et au début, on a l'air un peu con, pour être franc, mais tous les matins, se regarder dans la glace et se faire un compliment, c'est vraiment quelque chose
qui sert. Mais c'est totalement
ça
ce que je te disais, Gaël. Le matin, je me regarde dans la glace et je me dis, mais qu'est-ce que je me kiffe ?
Alors là, c'est un peu... qu'est-ce que je me kiffe ? C'est l'étape d'après, mais il y a des gens qui ne se kiffent pas, probablement, dans l'audience. Et c'est normal, parce que la confiance en soi, ça se construit petit à petit, et commencer par se faire un compliment, et peut-être qu'effectivement, ils arriveront à l'état de zénitude dans lequel tu es, visiblement, et ce qui est très bien, de confiance en soi. Alors ça vient avec l'âge, bien entendu. Moi, j'ai plus de 51 ans, je peux dire que j'ai confiance en moi, mais ce qui n'était pas du tout mon cas quand j'avais 25 ou 30 ans, où j'étais cafi de doute, où je me trouvais forcément pas toujours au top intellectuellement, au top physiquement. Et puis avec l'âge, on finit par connaître ses forces, ses faiblesses, assumer ses faiblesses, et ne plus laisser s'atteindre, ne plus ressentir d'émotions négatives quand les gens viennent appuyer là où ça fait mal. On va donner la parole à Emra. Emra, est-ce que tu as une question, une réflexion ou des conseils ? Salut Emra.
Bonjour, comment ça va ?
Mais très bien, et toi-même ? Alors ?
Alors, je pense pas que je serai trop dans le détail de manière aussi sophistiquée que vous avez pu l'être, et merci de partager comme vous l'avez fait. Je trouve que c'est plein de réflexions... presque intime et personnel. Je trouve ça vraiment intéressant qu'on puisse en parler comme ça. Dans ma vie professionnelle, je suis rarement émotionnel. Je pars du principe que, en fait, moi, j'ai... Mon kiff à moi, c'est la gratitude. Donc, je me réveille le matin, j'ai de la gratitude. Je vois les gens avec qui je travaille, je les respecte, je sais qu'ils font du travail, qu'ils se donnent, j'ai de la gratitude. C'est ce qui me ground, on dirait en anglais. Et j'ai eu très peu d'épisodes où je me suis excité au travail avec ces gens, parce que je pars du principe que je les accompagne. Même j'ai aucune prédisposition à être là où je suis aujourd'hui dans mon métier, pour plusieurs raisons. Et il s'avère que on vit des moments qui sont très difficiles à tout, pour tous et chacun. Et on a vite fait d'arriver à nos seuils de tolérance et puis à devoir soit s'isoler, soit péter un câble, soit ci, soit ça. Donc je pars du principe que moi, mes problèmes, je les gère avec moi. Les gens avec qui je suis, non seulement il y a de l'émotionnel à gérer, mais il y a aussi beaucoup d'ego à gérer. Et du coup, je prends un peu de recul et j'essaie d'aimer ces gens et puis de faire partie de leur cursus, de leur carrière, en les accompagnant et surtout en essayant de comprendre des frustrations, en essayant de surtout les comprendre à temps. J'invite tout le temps les gens de mes équipes à me parler. Et on fait souvent, il y en a qui demandent des bilatérales plus ou moins fréquemment. Et ça permet déjà de bien dissoudre les choses qui pourraient monter en puissance chez les gens et créer des grosses frustrations. On est rarement détruit par des grosses pannes. C'est souvent les petits joints, les petites choses, les trucs qui s'accumulent, qui font qu'après, quand on n'est pas attentif, on fait des burn-out ou ça va pas.
Quel est ton métier, Emra, si c'est pas indiscret?
Alors mon métier de base c'était la cybersécurité, mais maintenant je me suis retrouvé j'ai été appelé un peu d'urgence à travailler dans un flagship européen en neurosciences cliniques dans la recherche mais du côté technologie. Donc on travaille avec des docteurs, avec des PhD, des postdocs, enfin voilà, donc c'est
alors c'est marrant parce que t'as l'air, toi tu prends en fait les émotions, tu gères les émotions des autres en les amenant à prendre de la distance et à relativiser le problème qu'ils ont à gérer, si j'ai bien compris. C'est pas la fin du monde.
C'est adaptif et je personnalise dans le sens où chaque personne est importante quelque part. Pas quelque part, tout le temps en fait.
Mais parce que les milieux techniques, c'est un petit peu comme le bâtiment, comme Inès le disait tout à l'heure, ont plutôt une mauvaise réputation sur ce sujet-là, où justement, c'est un petit peu le côté, si t'es un robot, c'est comme ça que ça va, c'est cache tes émotions, et parfois tu peux être sec,
oui,
mais c'est très froid, non ?
Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi très peu, enfin pas très peu, on a un ratio, je pense, de 40%, 35-40% de femmes. Mais ce qui est assez curieux, et la seule fois que je me suis énervé, c'était contre une collègue qui est une amie, en fait, que je connais depuis des années, mais qui est venue travailler dans mon équipe maintenant, c'est qu'il y a cette revendication un petit peu où systématiquement elle interrompt tout le monde, et c'est très difficile de l'arrêter quand elle commence à parler. Moi, ça me gêne pas. Alors, moi, j'ai absolument aucun. Je m'offusque pas, on peut m'interrompre, on fait des blagues sur moi. J'ai aussi un autre problème, c'est que, enfin, c'est pas un problème, mais quand je disais que j'ai pas de prédisposition à être là où je suis, c'est que je suis aveugle en plus de tout ça. Donc moi j'ai absolument aucun souci d'ego vis-à-vis de ça. On peut m'interrompre, mais par contre, effectivement, il y a des fois où on peut tous accumuler des choses, etc. Et chez nous, on a deux côtés assez obscurs où je remarque que chez les professeurs, les docteurs, etc. C'est hyper malsain. Il y a très peu de place pour les femmes. Ce qui me gêne le plus vis-à-vis, je dirais, le worst of all evils, c'est que parfois elles se font discounter en public devant tout le monde. Et ça, je ne tolère pas. Mais ça produit autre chose. Ça produit aussi que ces mêmes personnes, tout d'un coup, revendiquent beaucoup de choses. Et on a l'impression qu'on doit. On a faire de l'ingénierie mentale pour savoir qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qu'on tolère, parce que effectivement on sait que voilà, il y a du biais, il y a des choses qui vont pas, donc voilà, c'est hyper difficile à naviguer. Cela dit, dans le milieu dans lequel je suis, je sais pas si c'est vraiment comparable au bâtiment. C'est pas pour faire cliché, mais c'est hyper intellectuel. C'est plus de l'ego, c'est plus c'est vraiment essayer de faire en sorte que les gens se sentent bien pour être au meilleur dans ce qu'ils font. Et ça demande énormément d'écoute, énormément de travail.
Mais tu as dit quelque chose, Emra, que je trouve hyper intéressant sur, si j'ai bien compris ce que tu as dit, parfois tu peux être témoin de personnes qui vont s'énerver contre d'autres personnes dans une équipe et qui vont lâcher leurs émotions. Et il y a quelque chose aussi, je rappelle, dans les entreprises, quand vous êtes témoin de ce genre de choses, parfois d'avoir le courage de s'interposer. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, toutes et tous, bien souvent, les grands gueulards dans les entreprises vont s'attaquer aux plus faibles et pas nécessairement aux gens de leur carrure. Et c'est là où parfois il faut avoir un petit peu de courage pour essayer de calmer les émotions négatives des gens. Parce que c'est déjà, il y a la notion de respect qui est assez fondamentale. Mais là, on dérive un petit peu quand même du sujet, Emra. Donc on va peut-être recentrer sur vraiment la gestion des émotions, sauf si tu veux rajouter quelque chose sur le sujet.
Non, pour moi, je pense que la gestion des émotions vient énormément, c'est un byproduct de l'insécurité. Et peut-être que c'est un peu un amalgame, ou peut-être que c'est un peu extrapolé dans l'histoire, mais avec la plupart des personnes, je peux retenir un email jusqu'au lendemain et pas l'envoyer dans la foulée si c'est quelque chose qui me frustre, mais aussi des gens qui ne le méritent pas. J'ai pas besoin de le faire avec tout le monde. J'ai pas besoin de perdre mon temps à pondérer mes émotions. Et puis, je le ferai avec les gens qui pour moi sont importants. Mais la plupart des emails, s'il y a des choses qui me viennent, c'est pas dans le boulot. Mais
c'est fou, Emra, parce que, en fait, je réalise que sur le stage, il y a que des rois de la zénitude. S'il y a des gens qui sont en écoute, qui ont plus de mal à gérer leurs émotions, montez, parce que entre Inès, qui arrive à gérer ses émotions dans le bâtiment, Benoît, qui visiblement gère très bien ses émotions quand il est dans le stress, Shazam, bah maintenant t'es arrivé à la grande zénitude. Alors, on va donner la parole à Mylène, mais par contre, Mylène, j'ai l'impression que quand tu ouvres ton micro, ça fait des grésillements. Mais on va te donner la parole et je te dis si c'est toujours le cas.
Est-ce que c'est toujours le cas?
Mais pas du tout, on t'entend formidablement bien, Mylène. Alors, est-ce que tu es un maître zen ou est-ce que tu es du côté obscur de la force?
Les deux, mon capitaine.
Ah, raconte-nous alors.
Alors, moi, je suis d'une nature plutôt posée, assez tranquille, mais je ne sais pas gérer mes émotions. Je suis hypersensible et au travail, c'est très compliqué. Je suis du coup ultra susceptible. Et en fait, moi, j'ai fait un burn-out en 2016. J'étais assistante de direction. Et j'avais un chef, enfin une chef qui était complètement, enfin très compliqué à gérer. Et en fait, nos deux personnalités ne pouvaient pas travailler ensemble. Rien que d'en reparler, j'ai des émotions qui remontent.
Ça s'entend, oui. Si t'as envie de changer de sujet, je t'en prie, Mylène, hein, y a aucun problème.
Non, mais j'en parle parce que. Parce que c'est important en fait, et moi suite à cette relation toxique, j'ai pris du poil de la bête en fait. Alors pas dans l'énervement, pas dans l'excessif, mais en fait maintenant j'arrive un peu mieux à me poser. J'ai toujours des émotions très fortes, mais du coup j'essaye de respirer, de prendre mon temps, et en fait maintenant quand il y a quelque chose qui va pas, eh ben, je le dis. Avant, j'y arrivais pas.
Ça, c'est hyper important ce que tu dis, Mylène, parce que, alors, le burn-out est aussi lié à une quantité de travail écrasante, généralement. Je sais pas si c'était ton cas, mais c'est amplifié, bien entendu, par les émotions. Mais le côté exprimer ses émotions, c'est tellement important. Et ça a été un des drames du premier confinement. Il y a plein de gens qui avaient plein d'émotions et leur manager ne l'aura jamais demandé. Et comment ça va? Comment est-ce que tu as passé cette période? Et certaines boîtes, je pense à Google par exemple, ont fait des groupes de parole gérés par les managers qui eux-mêmes disaient leurs émotions. Donc toi maintenant, grâce, c'est horrible de dire ça, mais souvent les gens qui sont passés par le burn-out gèrent nettement mieux après justement leurs émotions parce qu'ils savent où ça peut mener. Donc maintenant, toi, tu les gères nettement mieux, tes émotions, c'est ça, si j'ai bien compris?
Mieux, enfin moi je suis quelqu'un qui va pleurer très facilement, qui est vraiment très susceptible en fait. Un peu moins maintenant, parce que j'arrive à prendre du recul et à me dire non, cette personne elle t'en veut pas forcément à toi, c'est pas toi qu'on critique, c'est peut-être ton travail, ou donc j'arrive à prendre du recul. Mais en fait C'est parce que j'ai appris en fait de cette de ce burn-out qu'il fallait enfin j'ai une phrase qui me vient et en fait c'est mon leitmotiv, c'est les gens ils vont jusqu'où on les laisse aller. Et ça c'est vrai ouais. Pour moi c'est maintenant quand ça va pas, quand je sens qu'il y a un conflit, j'essaie d'en parler avec la personne et d'ailleurs ça s'est passé pas plus tard que cette année. On avait embauché un responsable donc juste au-dessus de moi. Et donc je sais pas ce qu'on lui a dit sur moi, je sais pas comment on m'a présenté, enfin parce que du coup c'est vrai que ben moi j'ai fait mon burn-out dans mon travail. Peut-être on met des pincettes quand on doit me parler, je sais pas du tout. Hein. Mais un très mauvais contact. En fait cette personne arrive très froide, très distante. Donc on est en télétravail et je reçois des mails avec des petites phrases un peu assassines. Pourquoi on fait ça? J'ai jamais vu ce genre de pratique. Enfin voilà, c'est des petites phrases alors, qui me concernent pas directement, mais je me dis c'est bizarre quand même sa façon de parler tout ça. Et puis bon, entre temps, je le croise au travail et je lui dis écoute. Je pense qu'il faut qu'on se parle. J'ai besoin de te parler, en tout cas. J'aimerais bien qu'on se voit. Et il me dit oui, quand j'aurai 5 minutes. Et après, je lui fais non maintenant. Et là, je pense qu'il a été tellement surpris parce que je suis quand même assez douce, assez tranquille. Je pense qu'il a été tellement surpris que du coup, il a pas eu le choix et il m'a pris en entretien. Et là, en fait, j'ai vidé mon sac. J'ai dit écoute, moi, je suis là pour travailler en bonne intelligence. Pour essayer de m'améliorer s'il y a des choses qui vont pas, mais faut me le dire correctement, me respecter. Et en fait, au début, c'était très froid et ça a retourné la situation. En fait, après, il m'a expliqué que quand il est arrivé, il pensait que j'étais un boulet, enfin que j'allais pas pouvoir travailler avec lui correctement. Et en fait, après, on a réussi à avoir un travail. Intelligents tous les deux, quoi.
Mais mille merci, Mylène, d'avoir partagé cet exemple et cette expérience, parce qu'effectivement, trop souvent, dans le monde de l'entreprise, on hésite à se confronter aux personnes qui génèrent ces émotions négatives. Et là, si tu ne l'avais pas fait, si ça se trouve, tu serais resté dans cette frustration, dans cette émotion négative, parce que cette personne a mis des petites phrases assassines, des petits mots insidieux, les trucs. Je vois très bien le genre de mail que tu as dû recevoir. Et un, c'est très courageux d'être allé le voir. Mais ce qui est génial, c'est que ce courage est récompensé. Et mis à part quand on est confronté à des pervers narcissiques, et malheureusement, ça peut exister, mais quand on est face à des gens normalement constitués, le fait d'aller les voir hyper calmement, comme tu l'as fait en disant « Non, mais je veux parler avec toi. J'exige qu'on parle parce qu'il y a quelque chose qui ne me convient pas. » Et parler de ces émotions négatives et de ce qui les a générées, bah, c'est extraordinaire. Donc Mylène, bah, merci pour ce partage d'expérience. C'est juste top. On va revenir ensuite à tous les participants. On va accueillir Nouria. Tout d'abord, bonjour Nouria, comment vas-tu bien ?
Bonjour, je vais très bien, et vous ?
Oh bah ça s'entend à ta voix, dis donc, mais quelle patate, hein, en fin de journée, comme ça. Alors, dis-nous.
Je suis montée déjà, parce que tout à l'heure, tu disais que tu avais l'impression qu'il n'y avait que des personnes zen sur le stage, et que s'il y avait certains qui ne se reconnaissaient pas dans cette attitude zen, et bah, qu'elle monte.
Ah donc moi, toi, tu es la femme pas zen. Ok, alors faites gaffe, mesdames et messieurs, nous avons donc Nouria sur le stage, la femme pas zen, on s'accroche. Vas-y, dis-nous, pourquoi t'es pas zen alors ?
Je sais pas si je devrais dire pas zen, parce que de base, je suis de nature très joviale avec les gens, je suis généralement de bonne humeur.
Bah, c'est ce que j'allais dire, en entendant ta voix, on n'a pas l'impression qu'on a Dark Vador en face de nous quand même.
Non, mais j'ai des incompatibilités avec certaines personnalités qui rapidement me font avoir le sang chaud, si je peux dire ça comme ça. Donc au travail, bah, les gens respectueux, je les respecte. Les gens qui fonctionnent à l'humilité comme moi, je m'adapte. Mais par contre, si je tombe sur une grande gueule ou si je vois qu'il y a quelqu'un qui n'a pas de mal à rabaisser les autres ou à mal parler... Je rentre tout de suite en confrontation et là, je ne maîtrise pas mes...
Ah, et donc, tu fais le syndrome du chihuahua qui s'oppose au chihuahua. Mais est-ce que tu as déjà essayé de faire ce qu'a fait Mylène avec la personne, ce dont on vient de parler, de parler calmement et facturer ? Parce que je crois, oui, je précise quand même que ce qui est important quand on parle à une personne qui a généré des émotions négatives, c'est important d'être factuel. Il ne suffit pas de dire j'aime pas. Il faut dire, voilà, tel mot, telle phrase, voilà ce que ça évoquait. Toi, tu rentres dedans direct, sans parler ?
Moi, si ça me concerne, typiquement, j'ai eu le cas au travail de quelqu'un qui avait une forte personnalité et qui l'affichait. Moi, typiquement, j'ai une forte personnalité, mais je ne l'affiche pas au travail parce que je trouve que c'est pas adapté. Et quand j'ai remarqué ça autour de moi, comment la personne parlait aux autres, je me suis tout de suite dit, oula, ça va pas passer entre nous. Mais je vais pas confronter cette personne. Si elle essaie sur moi, je répondrai ce que j'ai fait à la première occasion. Je lui ai dit, écoute, c'est la dernière fois que tu me parles comme ça. Si tu te prends pour quelqu'un, dis-toi que je me prends pour la même personne, donc tu vas redescendre.
Ça me fait penser, Nouria, ce que tu dis, à la méthode que Inès utilisait. Je ne sais pas si tu étais déjà dans la room. Inès, si j'ai bien compris, quand tu es confronté à quelqu'un qui t'énerve bien, tu comptes dans ta tête pour justement gérer ton émotion et ne pas laisser exploser. Alors, tu pourrais réexpliquer à Nouria, parce que c'est peut-être une bonne méthode pour elle.
En fait, c'est que c'est pas, je ne compte pas uniquement dans ma tête. C'est que quand je suis confrontée en même temps à quelqu'un qui me titille les émotions, je vais avoir un réflexe avec les mains et du coup, je tapote sur moi, sur la table ou autre, délicatement. Et en fait, je commence à compter dans ma tête pendant qu'il parle, juste le temps de voir où ça en est. Et moi, ça me permet justement de préparer ma réponse ou du moins d'être prête à répondre et d'être prête à répliquer, mais sans parler sur le même ton.
En fait, Inès, ça me fait penser, il y a quelqu'un qui avait dit un moment dans une engueulade, c'est toujours important de parler doucement. Est-ce que c'est ce que tu fais, Inès ? Toi, tu parles doucement. C'est ça ?
Ah, déjà, moi, je parle de basse très très bas, donc je ne peux pas parler très haut. Mais oui, je parle toujours très doucement. C'est que, je parle comme je te parle en ce moment, Gaël.
Ouais, donc c'est très doux.
C'est un ton de voix qui ne va pas changer. Peu importe la situation.
Et toi, Nouria, quand y a quelqu'un qui te manque de respect, c'est comment tu fais ? Tu changes, tu te transformes telle double face avec une grosse voix ou pas ?
Non, je reste sur le même ton. C'est un peu comme Shazam disait tout à l'heure. Moi, j'ai beaucoup de réparties. Donc, je cherche pas trop longtemps mes répliques et je sais tout de suite ce que je peux répondre à quelqu'un lorsqu'il est en train de me manquer de respect sans tout de suite être dans le ton de la confrontation. La personne comprendra que ça ne me plaît pas. Je veux mettre un point en fait, à cette discussion qui ne me plaît pas. Et je le dis de façon très calme. Et après, c'est un silence froid et ça ne se reproduit plus.
Mais c'est génial.
Moi, j'ai mon problème. C'est que je prends le problème des autres comme le mien. C'est-à-dire que si je vois un chef mal parler à quelqu'un hiérarchiquement en dessous, je vais défendre la personne qui n'arrive pas à se défendre. Et là, je vais vraiment être furax en me disant, mais comment ça se fait que tu puisses parler à quelqu'un ?
Alors, Nouria, je vais te donner de la philosophie chinoise.
Vas-y,
tu es prête à avoir de la philosophie chinoise ? Non, mais ce que tu fais, c'est tout à ton honneur. Aller défendre le faible et l'innocent, honnêtement, j'ai plutôt ce genre de caractère. Mais par contre, je ne sais pas si tu le fais, il faudrait peut-être aussi aller voir la personne qui se faisait agresser pour lui donner les clés pour que ça ne se reproduise pas. Et la philosophie chinoise, c'est de dire, si tu donnes un poisson à quelqu'un, tu vas le nourrir un jour. Si tu apprends à pêcher à quelqu'un, tu le nourriras toujours. Ouais. Donc, c'est bien de défendre la personne, mais peut-être que l'étape d'après, et qui en plus serait incroyablement valorisante pour toi, c'est de parler à la personne qui s'est fait agresser pour lui dire, voilà, comment est-ce que tu peux réagir la prochaine fois ? Comment tu peux gérer ? Et tu peux, parce que ça aussi, c'est quelque chose que j'essaye de transmettre en entreprise, c'est une forme de solidarité entre les gens. Et toi, tu as l'air mature et quand même très, très affirmé. Et si tu arrives à défendre les gens, peut-être que tu peux passer au stade d'après de devenir une sorte de maître Jedi de la défense contre les énervés de l'émotion. Non ?
Je suis ton père, Nouria.
Et ça fait peur. Alors, Nouria, on va accueillir Adjar sur le stage. C'est la dernière personne qui est montée avant de refaire un petit tour de table et clore cette room, parce que je suis toujours très ponctuel. Bienvenue, Adjar.
Merci Gaël, bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien.
Mais ça va bien.
Super, excellent. J'adore le sujet parce que on le vit au quotidien, surtout au travail. Je pense que pour moi, gérer ses émotions, c'est en face à face, bien sûr, mais il y a aussi gérer ses émotions quand on reçoit des emails au travail qui nous font sursauter des fois. Gérer ses émotions au niveau professionnel quand on a des challenges ou des discussions ou bien de vouloir défendre certaines choses au boulot, mais aussi quand les personnes ne sont pas respectueuses. Alors, comment je gère ça au niveau des emails? Alors, au tout début, j'étais très, très... je devais répondre à la minute près à mes emails, et surtout si un email qui me déplaît.
Donc, tu répondais dans l'émotion, là, en l'occurrence.
Exactement. Ouais. Et là, ce que je fais, c'est que je ne réponds plus à ces emails. Et quand j'y réponds, je me l'envoie d'abord.
C'est-à-dire oui, mais cette méthode, elle est géniale.
Et puis, je lis moi-même et je me mets à la place de la personne, justement. Et puis, j'ai appris à utiliser... un autre vocabulaire qui est un peu plus pragmatique, je dirais, où on est plus dans le ratio, dans les faits, et d'éviter vraiment toute émotion dans les emails. Mais je me l'envoie d'abord et à chaque fois que je me l'envoie, j'ai une de modification à faire. Donc c'est un temps. Je pense qu'il faut qu'on soit dans la réflexion, dans les moments d'émotion et pas dans l'action. La deuxième chose, le manque de respect quand il y a des personnes qui manquent de respect ou autre, j'essaie soit de les mettre dans la même situation, soit d'arrêter la discussion et de mettre des limites. Genre, je vous donne un exemple. Alors c'est pas un manque de respect total, mais il y a eu des stéréotypes dans cette expérience. On était dans un meeting et un de mes collègues, j'étais la seule femme dans le board, et on parlait complètement budget et finance. Donc, c'est que des faits, que du ratio, que des chiffres. Et à un certain moment, j'essayais de discuter du budget et puis qui était alloué. Et là, il me répond, il me dit « Oh, mais qu'est-ce que tu as à gérer aujourd'hui? Tu es émotionnelle. » Donc,
mais tu sais, Adjar, combien de femmes ont entendu cette réflexion atroce exactement. Venant d'une femme? Non, mais dis donc, t'as tes règles aujourd'hui ou quoi?
Exactement.
Et le truc atroce, bien sûr. Bah oui, c'est horrible.
Alors, j'ai pas répondu sur le champ parce qu'on était dans une phase où j'ai évité de répondre sur le moment. Mais deux semaines après, on avait le board, donc on a un bi-weekly board, et puis il y avait une autre discussion, cette fois-ci pas du tout budget, mais plutôt stratégie, produit, etc. Et il a intervenu, et là j'ai réagi de la même manière. Je lui ai dit, mais dis donc, X, aujourd'hui t'es émotionnel. Et là, il m'a regardé avec ses grands yeux. Et puis, dans le moment de la pause, il est venu s'excuser pour me dire « Mais écoute, Adjar, je n'ai pas voulu dire ça il y a deux semaines en arrière. » Je dis « Mais voilà, tu l'as vécu aujourd'hui, donc je ne pense pas que tu as tes règles, mais…
» Faut t'avouer à moitié pardonner, comme on dit.
Exactement. Donc, j'ai beaucoup aimé. Et puis, depuis, il ne refait plus ça. La chose que je fais aussi, c'est de vraiment prendre, lors de ces stéréotypes, etc., de vraiment prendre ma place dans la salle. C'est-à-dire, je ne me mets pas à côté de la porte, je ne me mets pas... Et puis, je fais très attention aussi à mon corps. Enfin, les émotions, ce n'est pas uniquement la force des mots, ou bien l'émotion des mots, ou bien le vocabulaire qu'on utilise, mais c'est aussi notre corps, comment on réagit. Donc, j'essaie vraiment de prêter très attention à ça. Et j'essaie d'essayer de mettre mes doigts, les deux ensemble. Comme ça, ça me permet aussi de canaliser mon énergie, parce que si ça sursaute chez moi, c'est pas bien.
C'est super intéressant, Adjar, mais il y a quelque chose. Alors, avant de fermer la room, on va refaire un tour de toute la room où chacun et chacune, vous aurez un mot de la fin. Mais il y a quelque chose. Alors, c'était au début de la room, je disais, on allait forcément beaucoup parler d'émotions négatives. Mais j'aimerais bien quand même qu'on parle un tout petit peu d'émotions positives, et j'aimerais vous livrer ce que dit Barbara Fredrickson, qui est une psychologue américaine et qui est spécialisée dans la psychologie positive. Alors, contrairement à ce qu'on pense, la psychologie positive, c'est pas un truc bisounours où quand on regarde un truc horrible, on se dit non, c'est super chouette. Mais c'est de regarder systématiquement le verre à moitié plein. Et une bonne méthode aussi pour lutter contre ces émotions négatives, c'est d'accueillir les émotions positives et de les accueillir pleinement. Et d'apprendre à regarder ses émotions positives. Et je vais faire un exercice très rapide, je vous promets, c'est pas un tunnel de 5 minutes. Je vais vous montrer qu'avec la pandémie, on peut avoir des émotions positives. Alors en fait, Barbara Fredrickson liste 10 émotions positives. Je vous les liste très rapidement. Il y a la joie, la reconnaissance, la sérénité, l'intérêt, l'espoir, la fierté, l'amusement, l'inspiration, l'admiration et l'amour. Et bien, si on prend la pandémie, si on prend la joie, vous allez me dire, mais comment est-ce qu'on pourra avoir une émotion positive qu'est la joie avec la pandémie? Eh bien, écoutez, moi, si je me remets en mai 2020, on nous annonçait un vaccin dans 4 ans. Ben, moi, je me réjouis, ben, on n'a pas attendu 4 ans. La reconnaissance. On peut être que reconnaissant envers tous les chercheurs qui sont mobilisés mondialement. C'est quand même la première fois que les chercheurs du monde entier se réunissent sur une maladie. Si on avait fait ça sur le sida il y a une vingtaine d'années, peut-être qu'on n'en serait pas là. Donc moi, je suis reconnaissant. La sérénité, bah, on commence à voir le bout du tunnel. L'intérêt, sérieusement, moi, je me pose la question, comment nos chercheurs ont fait? L'espoir, bah, l'espoir, oui, c'est une émotion positive, et là, on commence à avoir un petit peu d'espoir. La fierté, je sais pas, mais c'est une émotion incroyablement positive de voir à quel point l'humanité, pour une fois, s'est soudée et a lutté contre quelque chose, tous et toutes, dans le même sens. L'amusement, ben, je vous invite à relire les coupures de presse d'il y a un an et demi. Et moi, quand j'ai fait cet exercice, ben, je vous jure que la pandémie, maintenant, me fait rire, parce qu'il y avait des scientifiques qui nous expliquaient mais plein de trucs hyper sérieusement, hein, il y a un an et demi, avec des certitudes. Et on voit qu'ils avaient complètement tort, et bizarrement, ils doivent se cacher dans leur grotte. Alors l'inspiration, bah, quelle que soit la situation, y compris la plus désespérée, il y a des solutions. L'admiration, qui est également une émotion positive, je suis incroyablement admiratif de nos scientifiques. Et l'amour, bah, je sais pas vous, mais moi, quand je pense à tous ces chercheurs, bah, je suis limite love de ces personnes. Tout ça pour vous dire que même dans des situations négatives, on peut trouver des moyens, alors là j'ai grossi le trait bien entendu, on peut trouver des moyens de générer des émotions positives, et il faut pas oublier ça, parce qu'on a parlé de gestion d'émotions négatives, et c'était un peu le thème de la room, on va pas se mentir, mais il y a quand même aussi tous les jours, et on en a parlé un petit peu avec Shazam tout à l'heure, de générer nos propres émotions positives, mais il faut aussi apprendre à regarder le verre à moitié plein, quelle que soit la situation. Maintenant, je vous propose qu'on fasse un petit mot de la fin, on va faire un tour de table, donc un petit mot de la fin, si vous avez quelque chose à rajouter. Alors je vois que Shazam a déjà ouvert son micro, donc moi Shazam, un petit mot de la fin sur ces sujets.
Merci mon Gaël. Mon petit mot de la fin, c'est que non, moi je n'aime pas voir le verre à moitié plein, j'aime voir mon verre complètement plein, et ça, tu ne pourras pas m'en dépareiller.
Ah mais ça c'est encore mieux. Mais Shazam, tu sais, il y a quelque chose, c'est, je me rappellerai toujours de l'interview d'une actrice iranienne dont j'ai oublié le nom, et qui vit à Paris maintenant, et qui disait, mais vous les Français, vous êtes quand même bizarres, hein. Vous regardez souvent le verre à moitié vide. Ben nous, en Iran, on a tellement rien. Quand il y a une goutte dans le verre, on est déjà super heureux et on fait la fête. Donc toi, si
c'était
tu le vois...
C'était Faradiba.
Ah, très probablement. Très probablement. Et c'était à Quotidien, j'avais entendu cette phrase et c'était magnifique. Donc toi, tu le vois totalement plein, donc c'est bien. Mon Benoît, est-ce que tu as...
Pardon,
je t'en prie.
Une dernière chose et je te fiche la paix. Mylène reçoit toute mon admiration, chérie, autant Ajar, parce que vous êtes, et autant mon Inès, mais ça, Inès, elle le sait, mais vous deux, mesdames, vous êtes, et même Nouria, parce que Nouria, je suis ton père, mais bon, ça, c'est autre chose, mais Mylène et Ajar, félicitations, bravo. Vraiment, vous ne pouvez pas tirer plus belle fierté de qui vous êtes, et que jamais on ne vienne vous remarcher sur les pieds. Félicitations, mes chéris.
Merci d'avoir dit ça, Shazam, parce que c'est important, quand les gens luttent contre des émotions négatives générées par d'autres, c'est important de leur rappeler que c'est pas donné à tout le monde et c'est pas si facile de passer au-delà de ça. Donc merci, Shazam, d'avoir rappelé ça. Benoît, est-ce que tu as un petit mot de la fin?
Oui, tout à fait. Alors, je vais essayer d'être bref. J'ai bien aimé la méthode d'Inès qui s'apparenterait presque à la méthode de tapping de DMR, qui permet en fait, effectivement, de faire presque de l'auto-hypnose de ses émotions. C'est un peu marrant, cette technique-là. J'ai bien aimé. Et c'est à tenter, effectivement. La gestion de l'émotion, en fait, c'est souvent quand on ne la gère plus qu'on s'aperçoit qu'on la gère plus. Et c'est après qu'il faut se demander pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas géré.
Ouais, c'est souvent trop tard quand on la gère pas. T'as raison, Benoît.
Voilà. Et c'est après qu'on doit se poser les questions de qu'est-ce qui a fait que la goutte d'eau, quelque part, de l'émotion a fait que tout d'un coup c'est devenu un geyser incontrôlable au fond de moi. Et c'est l'introspection qui permet justement de mettre des barrières pour ne pas basculer dans l'émotion soit trop positive, qui peut être certes très positive, mais peut-être trop expansive pour soi. Et mais c'est rarement quelque chose qu'on vivra par la suite comme une chose à ne pas reproduire, parce que l'émotion positive, c'est rare qu'on en soit le propre produit initial. On la reçoit souvent, l'émotion positive.
Benoît, je suis pas tout à fait d'accord là-dessus. C'est ce que je disais, on peut générer nos émotions positives.
Oui, c'est vrai que quand...
Tu vois ?
Oui, c'est vrai, quand on est dans un sport, par exemple, et qu'on est dans une compétition et qu'on la gagne, on a tout fait pour générer de l'émotion positive. C'est vrai, tu as raison, je suis d'accord avec toi. Mais et l'émotion négative, effectivement, là, j'ai entendu quelqu'un qui disait il faut pas taire. Non, je pense que c'est la meilleure des choses. Hein. C'est tout simplement poser des mots, même si c'est pour les écrire, comme tu dis souvent, les écrire. Mais en fait, il faut sortir le négatif de soi avant qu'il nous ronge. Et ça, c'est vraiment très important.
Voilà. Alors c'est marrant, je viens d'avoir un DM du stage qui dit il y a de l'énergie et de la créativité dans le conflit. Et en fait, je suis pas d'accord avec ça. Il y a de l'énergie et de la créativité dans la confrontation des opinions. Dans le conflit, ben, ça devient deux chihuahuas qui se gueulent dessus. Donc c'est, j'imagine Alexis que tu voulais dire le côté confrontation des idées, mais pas conflit. Le conflit, c'est une guerre, il y en a forcément un vainqueur et quelqu'un qui va être battu, donc il faut que ça soit très posé. Mylène, ton petit mot de conclusion.
Oui, d'abord, merci Shazam. Moi, je voudrais conclure en apportant une solution à mettre en place pour la gestion des émotions quand il arrive un conflit. C'est la méthode DESC. Je ne sais pas si vous en avez parlé.
Non, pas encore. Je t'en prie, vas-y.
Donc, la méthode DESC, c'est D-E-S-C. D pour décrire les faits, voilà ce qui s'est passé, enfin voilà. Le E, c'est pour exprimer ses émotions, exprimer ce qu'on a ressenti. Donc voilà ce qui s'est passé, moi j'ai ressenti ça. Et après le S, c'est apporter des solutions. Donc moi je voudrais, j'aurais préféré que tu me dises ou que tu me fasses faire ci, enfin voilà, de proposer des solutions pour régler ce différend. Et le C, c'est en fait trouver un compromis avec l'autre personne.
C'est vraiment, c'est une super méthode. Et effectivement, in fine, dans un conflit, si on ne trouve pas un compromis à la fin, bah, le conflit peut durer longtemps, longtemps et encore longtemps. Et on connaît toutes et tous ce genre de choses. Bah, merci d'avoir partagé cette méthode, Mylène. Nouria, quel est ton mot de conclusion ?
Merci ! C'est moi qui
Je peux même pas croire que tu puisses t'énerver un jour, Nouria.
Oh ben c'est ça qui est hyper drôle à voir. Non, merci. C'était de bonne énergie, cette room. Et ça fait du bien de parler, d'avoir des gens qui comprennent ce qu'on ressent. Je me suis beaucoup retrouvée en Shazam. Hein, donc, quand tu dis « je suis ton père », je comprends et je vois de façon invisible le lien. Donc merci, et puis je retiens les solutions, je retiens la méthode DESC, et je retiens surtout ne donne pas de poisson mais apprends à pêcher pour plus jouer les justiciers.
Tu vas voir, tu vas devenir un maître Jedi et tu vas avoir plein de padawans de la gestion des émotions autour de toi professionnellement, ça va être formidable.
Bah super, merci.
Merci à toi d'être monté sur le stage. Emra, est-ce que tu as un petit mot de conclusion pour nous?
Je dirais, prenez du recul et de la perspective, de la latitude, et c'est tout.
Ouais, on revient souvent à ça, au côté savoir appuyer sur le bouton pause et gérer son émotion. On a tous un peu parlé de ça, et c'est vrai que c'est, pour résumer, c'est la gestion de l'émotion, c'est surtout ne jamais se laisser déborder par l'émotion qui va faire que... Bah, quand on est débordé par l'émotion, vous savez, tu connais cette expression « mes mots ont dépassé ma pensée bah, ». C'est quand on est dans l'émotion que nos mots dépassent notre pensée parce qu'on ne se maîtrise plus, effectivement. Bah, merci, Emra.
Ça paraît aussi simpliste, mais je crois quand même, dans ce que je dis, aimer les gens, quoi.
Mais c'est pas du tout naïf. J'ai été manager pendant plus de 20 ans et je rappelais aux managers que j'encadrais « aimez vos équipes ». Et parfois, on me regardait avec des grands yeux, je disais, bah oui, mais c'est important d'aimer les gens. Et quand on aime les gens, on y prête attention, et ça ne veut pas dire que parfois, on ne doit pas leur dire des choses difficiles, mais on le dit avec de la forme, sans cette volonté de détruire la personne, mais au contraire, de la construire.
Donc, le fond et la forme de comment on dit les choses changent tout.
C'est essentiel. Adjar, ton petit mot de la fin, si tu en as un. Nous t'écoutons.
Oui, alors d'abord, je vous remercie infiniment pour cette belle room qui a une énergie positive, mais incroyable, même si j'ai passé quelques minutes avec vous, mais j'ai pris avec moi beaucoup de choses. Moi, je dirais de se connecter avec son corps pour garder cette étincelle et ne pas la transformer en incendie. Voilà, ça c'est important de gérer ses émotions, ou plutôt de travailler sur les émotions de manière intelligente pour qu'on ait cette, les transformer comme tu as dit en émotions positives. Et puis une toute petite chose aussi, c'est de l'empathie, qu'on soit authentique et empathique, qu'on ait de l'empathie pour les gens, parce qu'on ne sait pas chacune de nous qu'est-ce qui passe dans sa vie, qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il subit ou qu'est-ce qu'il a subi, pourquoi il réagit de cette manière. Donc avoir de l'empathie et de la compréhension pour les gens, c'est super important. Et moi, je fais chaque fois un check-in avec mes équipes pour savoir comment ils ont passé leur week-end, comment ça va, pour ne pas être dans le jugement ou de prendre une action. De juger leur action sur le champ, mais de vraiment être empathique vis-à-vis des gens. Donc ça, c'est mon mot de la fin. Et puis, je vous remercie pour cette belle room. Merci.
Merci d'être venu, Adjar. Alors, j'ai deux informations à vous donner. Donc, la semaine prochaine, on revient à l'horaire normal et au jour normal. Donc, c'est vendredi à 18h. Si vous voulez assister, suivre Happy Work, vous pouvez cliquer sur la petite maison et cliquer sur la cloche pour me suivre ou suivre les personnes sur le stage aussi. Le thème de la semaine prochaine et les coachs seront de retour parce que là, ils sont en train de se dorer la pilule sur des plages un peu partout en France. Donc, ils seront de retour la semaine prochaine. Et le thème de la semaine prochaine, c'est comment avoir confiance en soi. Alors, c'est un peu lié aux émotions, mais pas que. Donc, comment est-ce qu'on peut travailler la confiance en soi et comment on peut gérer la confiance en soi et la développer surtout. Donc, c'est vendredi, pas celui de, c'est pas demain, c'est dans une semaine avec le retour de toute l'équipe des coachs. Les amis, je vous remercie mille fois d'avoir participé à cette room. Je rappelle qu'il y aura un replay de la room qui sera mis en ligne dimanche sur toutes les plateformes de podcast. Donc, si vous tapez Happy Work sur Spotify, sur Apple Podcast, sur Deezer, sur Google Podcast, enfin, sur toutes les plateformes, vous aurez le replay. Vous pourrez réécouter toutes les choses passionnantes qui ont été dites par nos intervenants. Donc, je remercie Benoît, Shazam, Mylène, Nouria, Emra, Adjar pour vos interventions et ceux qui sont déjà partis. Et merci à toute la très nombreuse audience qui était là. Je vous dis, j'espère, à la semaine prochaine. Et d'ici là, j'aime bien finir cette room comme je finis mon podcast à chaque fois. Surtout, plus que jamais, prenez soin de vous, les amis. À très bientôt et bonne fin de journée à vous.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.